Alors nous avons vu donc quelques mots d'introduction, nous avons vu la préexistence ou la pré-incarnation de Jésus. Et là, j'aimerais qu'on passe quelques temps sur des prophéties messianiques. Alors, comme je marque dans ma petite introduction, là, le Nouveau Testament décrit l'accomplissement de plus de 50 prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus. Ces prophéties traitent essentiellement de la personnalité, de la vie et de l'œuvre du Messie. Et nous en verrons juste quelques-unes ici. C'est impossible de les voir toutes. Mais j'aimerais voir avec vous, puisqu'on arrive à Noël, là, de voir quelques-unes de ces prophéties réalisées. Et la première séquence, c'est sur la lignée du Messie qui a été prophétisée depuis le début. On va le voir et on va lire ces quelques textes. Et après qu'on ait fini la lignée du Messie, avant de passer à la naissance du Messie, je voudrais qu'on lise ensemble une généalogie. Je sais que c'est barbant de lire une généalogie, mais je voudrais quand même qu'on le fasse. Alors, la lignée du Messie, alors, sa naissance a été prophétisée. On y va, je sais plus qui c'est. Vas-y.
Alors, naissance, Genèse 3:15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Okay, j'ai juste mis un petit extrait de Genèse 3:15. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il est question là?
C'est après la chute.
Après la chute? Pardon, oui.
C'est Dieu qui dit ça à la femme.
C'est Dieu qui dit ça, oui.
Une promesse.
Il dit ça à qui? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. À Satan. À Satan, hein. il dit cela à Satan. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu en sociologie, on appelle ce texte le proto-evangelium. Hein. Proto-evangelium, et donc c'est le terme qui était consacré en français, on dira proto-évangile, ce qui veut dire sa première mention de l'évangile. Dès que l'homme est tombé, dès ce moment-là, Dieu promet un sauveur, qui sera de la postérité de Ève. D'accord? Un descendant de Ève va être ce sauveur. Donc, il est annoncé depuis Genèse 3:15. Hein, donc, le proto-évangile. Première mention de l'évangile où on voit que celui qui les a trompés va être anéanti. Sa tête va être écrasée. C'est formidable, hein? Dès le début, Dieu promet un sauveur qui vaincra le malin. Donc sa naissance a été prophétisée. Ensuite, il vient de la postérité de Seth. Je sais plus.
Genèse 4, verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué.
Ok, dans Luc 3, 38, on voit la généalogie de Jésus. Et il est marqué
Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
Ok, donc ce que vous démontrez ici, c'est simplement que Jésus est un descendant de Seth. D'accord? Il n'est pas un descendant de Caïn. Et Abel a été tué. Donc Jésus est un descendant de Seth. Il est aussi de la postérité d'Abraham.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
À qui Dieu dit-il cela?
Abraham.
À Abraham. Et Matthieu 1:1, la généalogie de Jésus nous dit quoi? Fils de David, fils d'Abraham. Ok.
Ah oui.
Suivant. C'est la postérité d'Isaac.
Genèse 17, verset 19. Dieu dit: certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.
Ok, là j'ai pas marqué la référence, mais Jésus est aussi un descendant d'Isaac, hein, puisque Isaac est le fils de la promesse et le fils d'Abraham. Ok. Plus spécifiquement, il est le descendant aussi de Jacob.
Genèse 28:13. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle Et il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nombre 24, 17. Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth.
Ok, donc Jésus est un descendant de Jacob. Et regardez la prophétie de Nombre 24. Quelqu'un se rappelle qui a fait cette prophétie en Nombre 24? Balaam. Balaam, hein. Hein. C'est pas un bon prophète. Et qu'est-ce qu'il prophétise?
La chute de tous les enfants.
Toute la lignée de Christ. Ouais, il prévoit quoi? Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Et on sait que cet astre, ce sceptre, c'est Jésus lui-même.
Dans la postérité de Seth, on l'appelle le nom, donc Seth est la descendance. Voilà. Et pourquoi là on dit il abat tous les enfants de Seth? Est-ce que c'est le même?
Non, il n'a pas dit ça, il prophétise ça, mais c'est faux.
Entre la postérité.
Non, c'est une bonne question, je ne sais pas. C'est une bonne question, et je ne sais pas. Ouais, merci pour la question, je ne sais pas, je vais regarder. Les flancs de Moab, c'est juste une façon de parler de Moab, du pays de Moab. Les Moabites. Ouais. Mm-hmm. Moab et Ammon, hein, les deux fils de Lot. Mm-hmm. La postérité de Judas.
Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent.
Ok, donc très tôt, hein, on attend quelqu'un qui aura le sceptre, et il vient de la tribu de Judas.
Le Shiloh, c'est le rejeton.
Ouais, c'est la gloire aussi d'Israël. Ouais. Numéro 7.
Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi.
Ok. La promesse est faite à qui? À David. Ta maison, ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc, Jésus est un descendant aussi de David. Hein, donc, il est héritier du trône. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse là, c'est qu'on regarde sa lignée plus précisément. Il y a deux généalogies de Jésus dans les évangiles. La première se trouve en Matthieu, chapitre 1. Et la deuxième en Luc, ouais. Alors, on va prendre celle de Matthieu et on va la lire ensemble. Je l'ai pas imprimée pour vous, là. Quelqu'un qui a une forte voix, peut-être, pourrait nous la lire en entier, celle de Matthieu, là. Elle va de 1 jusqu'à 17. Et je voudrais pas que vous fassiez une lecture passive. J'aimerais bien qu'on fasse une petite lecture active. On va prendre des notes en lisant et je vais vous dire quelques petits trucs à remarquer là. Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Je demande à quelqu'un de le lire parce que pour pas porter ma grosse Bible, j'ai pris la petite Bible dans mon cartable hier et franchement c'est écrit tout petit. Alors, si quelqu'un veut bien le lire. Alors, ce que je voudrais que vous remarquiez, il y a des femmes mentionnées dans ce passage. Je voudrais que vous les notiez. D'accord?
J'ai version BDS, ça va? Bible du Semer.
Oui, on va en voir là, plusieurs, hein, qui on va les noter. Et je voudrais aussi, sans vous en dire trop, que lorsqu'on arrive vers la fin, au verset 16 de cette généalogie, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se passe par rapport à toutes les autres mentions des ascendants de Christ et je voudrais que vous le remarquiez. Je pense que c'est des choses que vous savez déjà, mais je voudrais que vous les regardiez pour vous-même dans le texte. Parce que mon objectif, c'est que on apprenne à regarder le texte et qu'on regarde un peu les détails du texte. Ah, on a un lecteur puissant là. Vas-y.
Voici la généalogie de Jésus-Christ. de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Juda et ses frères. De Tamar, Juda eut pour descendant Pérets et Zéra. Pérets eut pour descendant Hetsron. Hetsron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Joram. Joram eut pour descendant Ozias. Ozias eut pour descendant Jotham. Jotham eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Yéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadoc. Sadoc eut pour descendant Haïm. Haïm eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Matan. Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il y eut donc, en tout, 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'à Christ.
Très bien. On a lu quelques noms. J'ai fait exprès de dire quelques noms parce que je voulais juste vous montrer que c'est pas barbant. Et que si on regarde un tout petit peu les détails, on pourra pas tous les regarder ce matin, mais si on regarde un tout petit peu les détails de cette liste de noms, on voit qu'elle est formidable. Première chose que vous devez savoir quand vous lisez l'évangile de Matthieu spécifiquement, c'est que l'audience, les destinataires de ce que Matthieu a écrit, ce sont des juifs. Matthieu écrit à des juifs et son objectif tout le long de son évangile, c'est de démontrer que Jésus est le roi des juifs. Ça, c'est vraiment, vraiment son objectif. C'est pour ça qu'on va entendre tout au long, repentez-vous donc, car le royaume des cieux est proche. Les juifs devaient se repentir, c'est-à-dire se tourner et reconnaître que Jésus-Christ est le roi pour qu'il règne. N'est-ce pas ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc ça, c'est vraiment son objectif. Et bon juif qu'il est, Matthieu, ben, il commence par une généalogie. Hein, on voit des généalogies dans toute la Bible, et là, on en voit une en particulier. Et son objectif, c'est de montrer que Jésus est légitimement le roi des Juifs. Il est légitimement le fils d'Abraham, donc de la promesse faite à Abraham. Donc il sera le roi des Juifs pour une bénédiction pour toutes les autres nations. Mais aussi légitimement le roi descendant du roi David. Il a le droit au trône de David parce qu'il est un descendant du roi David. Ça va ? Donc ça, c'est vraiment un des grands objectifs de cette lignée. Mais il y a d'autres. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu des dames de cette généalogie. Alors, quelle est la première dame que vous avez notée ?
Tamar.
Tamar. Alors, Tamar. Quelqu'un peut nous raconter l'histoire de Tamar ? La belle-fille de Juda. Faut situer un peu. Elle s'est déguisée. Oui. Elle s'est déguisée en prostituée. Bon, je vous raconte, il faudrait lire tout le Genèse chapitre 38 si vous voulez lire toute cette histoire. Juda avait quitté sa famille, s'était mis un peu à l'écart de sa famille, et il s'est marié avec une femme cananéenne. C'est le premier d'ailleurs des patriarches qu'on voit se marier hors de la famille d'Abraham. il s'éloigne, il va donc se marier avec cette femme et ils vont avoir 3 enfants. Et le premier de ces garçons, dont j'oublie le nom maintenant, aidez-moi. Non, bon, c'est pas grave. Le premier de ses fils se marie avec une femme qui s'appelle Tamar. Il meurt. Et sans enfant. Et donc, selon la tradition de l'époque, c'est pas encore une loi qui, elle va le devenir plus tard, c'est le deuxième frère, pour donner une lignée à son frère aîné, qui doit se marier avec cette femme. Et celui-ci s'appelle Onan. Onan. Et Onan, il doit prendre Tamar pour femme, mais il refuse de lui donner une descendance. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais probablement qu'il s'est servi d'elle physiquement, mais sans lui donner tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse tomber enceinte. Et ceci a beaucoup déplu à l'Éternel, et l'Éternel l'a fait mourir. Il y avait donc un troisième fils, Shéla, de notre ami Judas, qui aurait donc dû se marier avec cette femme, puisqu'elle était mariée avec le premier, le deuxième, et ils sont tous les deux morts, mais bon, lui était trop jeune pour se marier avec elle. Alors Judas, un peu hypocritement, il lui dit, en espérant qu'elle oublie probablement, tu rentres dans la maison de ton père, et quand notre plus jeune fils sera en âge de se marier, eh bien, on te cherchera, tu te marieras avec lui. Les années passent, ce jeune homme devient grand en âge de se marier, on ne va pas la chercher. Et en même temps, notre ami Judas perd sa femme. Il devient veuf. Et il avait un bon ami à lui. Et avec ce bon ami, c'est le moment de faire la tonte des moutons, ce qui était un moment de grande célébration, parce que ça veut dire que tu avais un grand troupeau. Enfin, c'était une façon de démarquer, de montrer sa richesse. Et comme notre ami Judas est veuf, et qu'il n'a plus de femme, il trouve cette bonne idée, il dit, bon, je vais aller voir une prostituée. Nous montre un peu la moralité aussi de notre cher Judas. Et Tamar, sa belle-fille, qui aurait dû être donnée comme femme à son beau-frère, ne voyant qu'elle n'est pas donnée, elle décide de se déguiser en prostituée. Et elle va attirer Judas vers lui, elle va coucher avec lui, et il n'a pas d'argent pour la payer. Donc elle lui demande, écoute, laisse-moi ton seau et ton bâton, ça sera un gage. Lorsque tu reviendras me payer, je te rendrai ton seau et ton bâton. Judas, il va à ses affaires, et il revient parce qu'il veut payer cette femme, et quand il revient, elle n'est plus là. Quelque temps plus tard, il apprend que Tamar est enceinte. Donc, n'étant pas mariée, elle est forcément adultérine. Enfin, c'est forcément un enfant adultérin qui vient là. Sentence immédiate de la part de Judas, qu'elle soit prise de la maison de son père et qu'elle soit lapidée. Il faut qu'elle soit tuée parce qu'elle a commis l'adultère. Et là, c'est là que cette femme très intelligente vient pour dire le père de l'enfant, c'est celui à qui appartiennent le seau et le bâton. Et donc tout le monde est obligé de reconnaître que c'est Judas. Donc Judas va la prendre avec elle, le texte dit qu'il ne la connut plus. Et donc ceux qui auraient dû être les enfants de Judas, parce qu'elle va avoir des jumeaux, sont à la fois ses enfants et quelque part ses petits-enfants. C'est une histoire incestueuse qui est dramatique, qui se trouve là. Mais je pense que Matthieu fait exprès de la mettre là pour nous montrer l'étendue de la grâce de Dieu. Cette femme qui s'est déguisée en prostituée et cet homme, Judas, qui couche avec une prostituée, qui ne tient pas sa parole envers sa belle-fille, il est dans la lignée de Dieu, dans la lignée de Jésus-Christ. Et ça montre l'étendue de la grâce et ça montre aussi que Dieu va être fidèle à ses promesses. Hein? Le sceptre sortira de Judas, malgré tout cela. Et Dieu va rester fidèle à ses promesses. Donc, l'histoire de cette première femme. La deuxième que vous avez trouvée, c'est qui? Oui, c'était une étrangère aussi. Oui, oui, oui. C'était une non-israélite. Oui. La deuxième? Rahab. Alors, qui est Rahab? Jéricho. Tout à l'heure, quelqu'un disait que Tamar se prostituait un peu.
Rahab aussi.
Enfin, une fois, et Tamar, c'était une prostituée du temple, probablement. Ouais, c'était probablement lorsque la Bible dit prostituée là, on pense qu'il s'agit d'une prostituée du temple. Rappelez-vous, on a la même chose chez les Grecs un peu plus tard. C'est que on allait dans des idoles et on avait des relations sexuelles avec une prêtresse comme un signe d'adoration à Dieu. Donc il y avait dans ces temples, il y avait des femmes et des hommes d'ailleurs hein, qui servaient au plaisir des uns et des autres et des adorateurs. C'est absolument terrible. Oui, c'est ça. Elle était au service du temple. Et qu'est-ce qui se passe alors, Rahab? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Celle-là, je pense que vous la connaissez mieux l'histoire que Rahab.
Elle a pas
entendu parler. Ouais. Où elle est? Où est-ce qu'elle habite?
Elle cache les espions à Jéricho.
Elle habite à Jéricho. Elle habite à Jéricho. Dans les murs de Jéricho, elle a un appartement là, première classe, vue sur l'extérieur. Non mais c'était intéressant d'habiter sur le mur, parce que quand tu étais sur le mur, tu voyais à l'extérieur de la ville, quand tu étais à l'intérieur, tu voyais pas grand-chose, hein. La vue était très limitée. Donc c'était plutôt une bonne place où elle habitait. Qu'est-ce qui arrive là?
Les espions
qui arrivent. Ils arrivent envoyés par qui? Pour quelle raison?
Pour savoir ce qui se passait pour espionner la ville de Jéricho.
C'était le premier obstacle. Jéricho, c'est la première grosse ville. Après avoir traversé le Jourdain, c'est la première grosse ville. Si on voulait conquérir ce territoire que le Seigneur leur avait donné, il fallait passer par Jéricho, il fallait détruire Jéricho. Donc ils envoient des espions, et ces deux espions, elle va finalement, rappelez-vous, elle va les cacher, elle va les protéger lorsqu'on va les chercher, elle va les cacher dans son grenier. Puis elle va les faire descendre et les faire partir, et ils lui font cette promesse hein, que tous ceux qui seront dans sa maison lorsqu'ils viendront pour prendre le pays seront sauvés, seront épargnés. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'était Brigitte ou toi qui disais, que ce qui est formidable avec cette femme et ce qui nous montre quelque chose de l'époque, c'est qu'elle avait entendu ce que l'Éternel avait fait aux Hébreux en Égypte, comment ils avaient traversé la mer Rouge et comment ils avaient traversé le Jourdain.
Toute la population avait peur.
Ils avaient peur, mais ça veut dire qu'ils connaissaient. Et elle connaissait assez pour savoir que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Dieu n'avait pas abandonné ses nations. Hein. Ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait pour Israël était connu. Et cette femme, elle en connaissait assez, elle a fait confiance en Dieu. Et elle manifeste sa confiance en cachant les Israélites chez elle. Et à cause de sa confiance en Dieu, elle est sauvée. Elle est sauvée. Ouais, elle met ce fil pour montrer aux autres où elle est. Ouais. Et donc quand ils vont venir, rappelez-vous, ils font le tour de la ville. Et puis la dernière fois, ils le font 7 fois, et qu'est-ce qui se passe? Tout s'écroule, tout le monde est tué. Sauf Rahab. Et là, je pense que Matthieu nous le met, comme on l'a vu tout à l'heure, on a une femme immorale que le Seigneur a amenée, mais là aussi on a une femme immorale, mais le Seigneur nous montre que la foi en Dieu est le moyen par lequel les gens ont toujours été sauvés. Il n'y a pas eu d'autre moyen que la grâce et la foi en Dieu pour être sauvés. Et là, on le voit dans l'histoire de cette femme. Vas-y. Elle est étrangère aussi, c'est aussi une étrangère, c'est une païenne. Païenne comme on peut l'être, exactement. Très bien. La suivante.
Ruth.
Ah, la plus belle histoire d'amour jamais écrite. Ruth, une Moabite. Voilà. Et elle, quelle est son histoire un tout petit peu?
Les Moabites, c'est quand même les descendants de Lot avec
l'inceste. Oui. Aussi, un inceste, oui.
Pas très catholique.
Comment elle est venue là? Pourquoi elle est venue? Qu'est-ce pour elle est là? Elimelech.
Même quand sa belle-mère lui disait « Va-t'en, rentre chez toi », elle dit « Non, c'est mon Dieu, c'est mon peuple. »
Elle était dans un pays.
Voilà, elle épousait le Dieu avec Dieu en même temps
que son mari. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'histoire de Ruth, c'est cette histoire formidable de la rédemption. Hein. Pas seulement de Ruth, mais aussi la rédemption de Naomi, sa belle-mère. Rappelez-vous, hein, ils avaient elle et son mari, ils sont partis. parce qu'ils n'ont pas fait confiance, ils n'ont plus fait confiance, ils n'auraient pas dû partir. En plus, ils habitaient à Bethléem, Bethléem qui est la maison du pain. Et le Seigneur avait permis qu'il y ait la famine dans ce temps-là. Et eux, certainement que c'était des gens fortunés qui avaient les moyens, parce que tout le monde n'aurait pas eu les moyens de s'en aller et commencer son business ailleurs ou commencer sa vie ailleurs. Ils ont eu les moyens, ils sont partis et ses fils se sont mariés. Son mari est mort, ses fils sont morts et une de ses belles-filles ne retourne pas avec elle, Orpa, mais Ruth va revenir et elle va suivre Naomi en suivant le Dieu d'Israël. Elle va faire confiance, elle aussi, au Dieu d'Israël et il va prendre soin d'elle d'une façon absolument extraordinaire, hein, où elle va devenir la femme de Boaz et devenir l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Donc elle aussi, elle est là aussi, encore parce que Matthieu, il écrit, je vous rappelle, à des Juifs. Il va leur prouver que Jésus est le roi d'Israël. Mais tout au long, et on le voit avec tout plein de petites histoires, il ouvre des fenêtres pour montrer que ce Jésus qui vient et qui naît là de la descendance d'Abraham et de David ne vient pas que pour sauver les Juifs. Il va être une bénédiction pour toutes les nations. Et c'est ce que Dieu avait prévu pour Abraham dès le début, hein. Si les descendants d'Abraham étaient fidèles à Dieu, ils allaient être une grande bénédiction pour tous ceux autour. Et il y a eu des périodes en histoire d'Israël où c'était le cas. Rappelez-vous Salomon. Dans le temps d'affinité de Salomon, les gens venaient des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. On a l'histoire de la reine de Séba, hein, qui vient, qui est impressionnée. Lorsqu'ils ont obéi, parce que le Seigneur les avait mis à part, malgré qu'ils soient tout petits, comme tu l'as dit, il les avait mis à part, et s'ils obéissaient à la loi de l'Éternel, ils allaient être bénis, et ce que le Seigneur allait faire dans leur vie, et dans leur terre, et dans leur famille, aller créer des questionnements tout autour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ce peuple est différent? Qu'est-ce qui fait que et cela allait attirer les gens. C'est pour ça aussi que le temple est construit sur une montagne, hein, pour qu'on puisse le voir de loin. Et Jésus, en fait, il vient pour être non seulement le sauveur des Juifs, mais pour être le sauveur de toutes les nations, de tous ceux qui vont croire en lui. Et je t'écoute.
Ruth, quand Boaz est fait le droit de rachat, il est le deuxième. Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans la postérité, dans la lignée? Si le premier avait exercé son droit de rachat sur Bach, d'abord, comme c'était Naomi, mais qu'il ne pouvait pas vraiment. Ce premier qui exerce le droit de rachat, et qui dit non, je ne le prends pas, ça aurait changé quelque chose dans la généalogie?
Ah, probablement. Probablement. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a. En fait, on ne sait pas grand-chose de l'autre. On sait qu'il est juste avant. Dans l'ordre de succession du rachat, il est juste avant, mais on sait pas finalement grand chose de lui. Mais il n'a pas voulu. Il a rejeté cette offre, tant pis pour lui quelque part, hein, parce qu'il est passé à côté de très grosses bénédictions, hein, en ne faisant pas ce qu'il aurait dû faire.
Boaz était un homme juste.
Un homme juste, un homme bon, un homme bien. Ouais. Alors la suivante, on a qui là? On avait Tamar, Rahab, Ruth.
Bathsheba.
Ah, merci d'avoir précisé ça. On a Bathsheba, mais son nom ne figure pas, vous avez remarqué?
Ouais, c'est la femme d'Uri.
Elle est juste appelée la femme d'Uri. Pourquoi, à votre avis, Matthieu fait-il ça? Oui, c'est l'horreur du péché de David qui est montrée là, et en même temps, avec l'horreur du péché, la grâce de Dieu. Vous rappelez l'histoire de Bathsheba, hein? Les Israélites sont en guerre contre Ammon, les Ammonites, et toute l'armée est partie en guerre sauf le roi David, qui pour une fois il s'est dit je prends un peu de repos, et à la place d'être avec son armée, il reste dans son palais et il se promène le soir. Rappelez-vous les maisons en Israël, d'ailleurs c'est toujours le cas dans beaucoup de maisons, ont des toits plats qui permettent de se promener au-dessus. J'imagine que le roi David va avoir un truc un peu mieux que ma petite maison à toit plat que j'ai aussi. Et il se promène et il voit cette très jolie femme à l'extérieur qui s'appelle Bathsheba et qui est mariée avec un certain Uri. Et il résiste pas à la tentation, il envoie ses serviteurs pour la faire chercher, ils passent la nuit ensemble et cette femme devient enceinte du roi David. Alors il monte tout un scénario, vous rappelez, il fait venir Uri, il s'est dit, bon, il va venir, je vais l'envoyer, il va coucher avec sa femme. Elle est enceinte, mais on ne saura pas dire que c'est de moi. Il n'avait pas à l'époque les tests ADN et tout cela. Donc il le fait venir. Ça marche pas le premier jour. Donc David se dit non, il faut que je trouve une autre solution. Et comment, il le fait, fait boire, il fait organiser un grand banquet, mais cet homme ne rentre pas chez lui. Il est beaucoup plus juste que le roi. Le roi était resté à la maison, il a envoyé son armée au front, et beaucoup se sont fait tuer, enfin plusieurs se sont fait tuer. Mais cet homme-là qui était au front, lorsqu'il rentre auprès du roi, il reste parmi les serviteurs du roi plutôt que de rentrer chez lui parce qu'il dit « je ne peux pas aller vers ma femme si tous mes hommes sont à la guerre ». Ça nous montre quelque chose du caractère, de la fidélité de cet homme à sa femme mais aussi à Dieu. Et j'en vais revenir là-dessus dans une seconde. Comme ça ne marche pas, David décide de le faire assassiner, purement et simplement. Et il envoie par la propre main de Uri une lettre au chef de l'armée. Et il lui dit, tu vas mettre Uri dans un endroit au front, un endroit très particulier pour être sûr qu'il va être tué. Et ça marche. Ça marche. Et puis la nouvelle arrive. David, il règle le problème maintenant. Bon, tout le monde va savoir d'ailleurs que l'enfant n'est pas du mari. Mais il va prendre la femme chez lui et se dire, bon, maintenant le problème est réglé. Sauf qu'il y avait un prophète qui s'appelle Nathan, qui au bout de quelques temps vient le reprendre, et vous connaissez la fin de l'histoire, et une des conséquences, c'est que cet enfant-là va décéder, mais Dieu, dans sa grâce, va permettre que Bathsheba devienne la mère de Salomon. Ça aussi, ça nous montre l'extrême grâce de Dieu. Je voudrais vous souligner une chose qui est terrible dans le péché de David. Évidemment, il trahit son ami en couchant avec sa femme. Il trahit un général qui travaillait pour lui au front, qui défendait son propre peuple. Mais il trahit aussi quelqu'un qui a trouvé refuge en Israël. Uri est appelé Uri le Hittite, le Hittien. Ce qui veut dire que Uri, originellement, n'était pas juif. Originellement, ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Or, il est là avec une responsabilité et il est marié avec une femme israélienne, Bathsheba. Ce qui, pour nous, veut dire que probablement, il était dans une situation semblable à celle de Ruth. C'est quelqu'un qui avait trouvé refuge en Israël, auprès du Dieu d'Israël, qui avait cru au Dieu d'Israël. Sinon, il n'aurait pas eu la position qu'il avait. Et cet homme, qui était un étranger, qui se confie dans le Dieu d'Israël, il se fait trahir par le roi du peuple de Dieu. Terrible. Terrible, le péché de David. Et pourtant, Dieu reste fidèle à sa promesse pour David aussi. Et c'est même par cette femme, Bathsheba, que va descendre le Christ, n'est-ce pas ? Puisqu'elle est la mère de Salomon. Extraordinaire, extraordinaire d'histoire de cette femme. Ah, il y en a encore une qui nous manque.
Marie.
Alors, là, je vous ai demandé de faire attention à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui change un petit peu là dans la généalogie. Qu'est-ce que vous avez remarqué ?
Elle s'agit des hommes, là, on inverse, au lieu d'être jumelé par les hommes, on dit c'est l'épouse de Joseph. C'est-à-dire qu'on met Joseph, parce qu'il y a la différence avec la généalogie dans Luc. L'une, c'est un par Marie, la descendance, et l'autre par Joseph.
Oui. Exact. Regardez comment c'est marqué. On prend juste le verset 15. Élude engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan, comme tout le reste. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Et là, on s'attend à lire Joseph engendra Jésus. C'est ça qu'on lit ? Non. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Pour nous faire signaler que Joseph n'a pas engendré Jésus. Mais il est son père légal. Il est son père légal. Donc, par Joseph, il a quand même le droit au trône d'Israël. Il est quand même un descendant de David par Joseph. Et on va voir on n'aura pas le temps là, mais si vous allez dans Luc, vous allez voir que il est descendant de David aussi par le sang, par un autre fils de David, par Nathan. Bah, c'est un peu compliqué là. Mais là, en fait, il a le droit au titre de roi d'Israël parce qu'il est un descendant de Joseph. Mais c'est pas Joseph qui l'engendre. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc là, quand quelqu'un lit ça, nous on a tellement l'habitude de lire ça, mais imaginez un juif qui lit ça, il s'arrête sur ses paroles. Il culpule par-dessus, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre. Qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que, on dit engendré, et là, il dit l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Et c'est là que c'est passionnant, parce que c'est là que Matthieu va nous raconter la naissance de Jésus-Christ. Il va nous raconter la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, un peu comme pour leur dire, calmez-vous les gars, c'est pas marqué engendré, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et tout le reste du chapitre 1 nous raconte la naissance miraculeuse de Jésus pour que les premiers destinataires de ce livre, les premiers qui le lisent, qui ne s'arrêtent pas tout de suite là en se disant, mais c'est n'importe quoi, qu'ils continuent de lire et Matthieu va leur expliquer que Jésus est né de façon miraculeuse. Bah, si tu vas dans Luc, tu vas le voir, elle est descendante d'Adam. Comme, mais elle est aussi une descendante de David, mais cette fois-ci par son fils Nathan et pas par son fils Salomon. Voilà. Et, les Ammonites, bah, c'était la fille de Lot.
Oui, les
Non, ça me dit rien. Dans la généalogie, je pense pas, non. On a parlé des Moabites. Ça va? Je vais juste vous montrer combien c'est passionnant. Il y a plein d'autres choses à dire. Hein. Si vous regardez, juste un petit crochet là, si vous regardez au verset 11, Josias engendra Jéconias, Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. D'accord? Jéconias, c'est un des fils, un des rois, et sur lui, il y avait une malédiction qu'aucun de ses descendants ne prendrait le trône d'Israël, aucun de ses enfants. Et c'est très intéressant parce que Jésus descend de Matthieu, donc il a le titre de roi, mais il ne descend pas de ce gars-là, de Jéconias, par le sang. Pas compris? Jéconias avait une malédiction sur lui qu'aucun de ses enfants ne régnerait sur Israël, aucun de ses descendants. D'accord? Et Jésus n'est pas un descendant physique de Jéconias. Il est un descendant par le titre de descendant de David, mais dans cette généalogie, il n'est pas un descendant de Jéconias parce qu'il n'est pas un descendant physique de Joseph non plus. Ça va? Mm-hmm. Alors que dans Luc, il faudrait prendre beaucoup plus de temps pour ça, mais dans Luc, on a la généalogie de Marie, on voit que elle est une descendante génétique de David par un autre fils. Ça va? Donc Jésus a à la fois droit au trône d'Israël parce qu'il est dans la lignée royale, mais il est en même temps un descendant physique DNA, ADN si vous voulez, enfin c'est pas vraiment vrai, mais un descendant physique de David aussi par un autre fils de David. Ça va? Donc il réunit vraiment toutes les conditions. Il est fils de David et roi. Ça va? Il y a rien qui se contredit et Matthieu après va expliquer ce qui s'est passé. Donc ça, vous le verrez quand vous serez dans vos églises, dans votre église, dans quelques semaines, je pense que cette histoire sera probablement lue. On va continuer, donc on a parlé de sa lignée, on retourne au cours, page 10, sur les prophéties concernant Jésus. Alors, je ne sais plus c'est à qui c'est.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
Voilà, un passage qu'on lit exactement le même en Matthieu chapitre 1, verset 23, c'est exactement le même passage. Isaïe a été écrit quand à peu près, une idée? Ouais, dans huitième siècle avant Jésus-Christ, donc 700 quelque chose avant Jésus-Christ. Et il dit avec précision, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. La traduction que vous avez ici, c'est la jeune fille. Et dans beaucoup d'autres traductions, vous aurez « et la vierge sera enceinte ». Mais « jeune fille » et « vierge » sont ici synonymes. Ça va? Et on le voit dans Matthieu 1, 23. Et c'est absolument extraordinaire parce que dans le contexte de Ésaïe, le roi d'Israël ne voulait pas entendre ce que Ésaïe avait à lui dire. Il avait dit, ben voilà, maison de David, je vais vous donner un signe que vous voulez pas l'entendre, mais ça sera tellement incroyable que vous aurez du mal à croire. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et Dieu vous donnera le nom d'Emmanuel. On voit dans Matthieu 1, 23, c'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que Matthieu va expliquer comment Jésus pouvait naître de Marie sans avoir connu Joseph. Il s'agit d'une naissance virginale, d'une naissance où la Vierge accouche un enfant. Donc, sa naissance d'une Vierge était prophétisée, mais aussi, numéro 2.
Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité.
Alors, qu'est-ce qui a été prophétisé là? Le lieu de la naissance. Et Michée était un contemporain d'Ésaïe. Donc ça nous donne vraiment, de siècles avant, on nous dit qu'il va naître à Bethléem Ephrata. Et très intéressant parce que Michée précise Bethléem Ephrata. Pour la simple raison qu'il y avait plusieurs Bethléem. Et pour pas qu'on se trompe, c'est Bethléem Ephrata. Et on le sait des siècles avant que Jésus naîtra dans ce Bethléem. Et pas dans un autre. C'est quand même incroyable. Alors, il y en a qui essayent de nous dire que Ésaïe et Michée, finalement, ils n'ont jamais écrit 700 ans avant. Et que ces textes ont été manipulés, que ça a été écrit beaucoup plus tard, parce qu'on refuse, la prophétie. Elle est tellement claire. Parler d'une vierge 700 ans, parler même du lieu. Donc, on essaie de nous faire dire que tout ça, ça a été écrit plus tard ou remanié. Ce qui s'est passé, qui a mis toute leur théorie un petit peu à bas, c'est les grottes de Qumran qui ont été les découvertes qui ont été faites à la grotte de Qumran en 1947-48. On a trouvé des copies d'Israël, des copies d'Ésaïe qui ont été écrites deux siècles avant Jésus-Christ. Alors même si on ne veut pas croire qu'il a écrit au 8e siècle, on a des copies qui datent du 2e siècle, déjà bien largement avant les faits. D'accord ? Absolument incroyable. On ne peut pas nier la parole de Dieu. Alors, sa naissance a été prophétisée, ensuite sa vie a été prophétisée aussi, son précurseur. On a déjà lu ce passage tout à l'heure, mais on va le relire. Tu as cité là maintenant.
Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées.
Ok, qui a accompli cette prophétie, c'est de qui on parle? Il préparera le chemin devant moi.
Ah, mais c'est Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, voilà. Okay. Il le dit lui-même, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il se reconnaît lui-même comme la réalisation de cette prophétie. Sa mission, là il y aurait beaucoup à lire, mais sa mission.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Ok, on va prendre le temps de regarder Luc 4, 16 à 21. Gardez ce texte-là ouvert et allez en même temps dans Luc 4. Quelqu'un peut lire? 16 à 21.
Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
C'est juste fou. On lit encore le 20 et on s'arrête une petite pause après le 20.
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
Ok, d'accord. On va lire le verset suivant juste dans une seconde. Où est-ce qu'on est là? La synagogue de quelle ville? À Nazareth, l'endroit où Jésus avait grandi. Et que fait Jésus là? Il y rentre dans la synagogue et il lit. Et il lit quel passage? celui que nous venons de dire dans l'Ancien Testament, hein, il dit le même passage. D'ailleurs, juste pour vous dire, ça c'était la coutume, hein, dans les synagogues, lorsqu'ils se réunissaient, un homme, un érudit, se levait et lisait la parole de Dieu, et après donnait des explications. Hein, c'est d'ailleurs les premières églises ont copié leur fonctionnement un tout petit peu sur le fonctionnement de la synagogue, dans ce même sens où la parole est lue et enseignée chez nous dimanche après dimanche. Moi, c'est juste un peu comme ça au sabbat. Donc Jésus, il va lire cette parole. Et il va expliquer quel est le ministère de celui qui doit venir, envoyé pour guérir, proclamer aux captifs la délivrance, donner la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Il lit cette parole que n'importe quel d'entre ces sages aurait pu lire. Mais regardez ce qu'il dit au verset 21.
Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. »
Waouh. Ça, il n'y a que Jésus qui pouvait le dire, on est d'accord. Il n'y a que Jésus qui pouvait dire ça. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de s'attribuer cette prophétie à lui-même. C'est accompli. D'ailleurs, eux, ils ont vu déjà ces miracles à Nazareth. Ils ont vu ce qu'il était capable de faire. Ils avaient entendu tout ce qu'il avait fait à Capernaüm et tout autour de lui. Ils savaient que Jésus faisait ces choses qui sont dites de lui. Donc cette parole, elle est accomplie. C'est absolument incroyable. Sa mission annoncée par Ésaïe 61, est clairement accompli là. Beaucoup d'autres choses, sa mission a été dite. Hein. Ensuite, donc, son précurseur a été prophétisé, sa mission a été prophétisée. Ensuite, son ministère. On va juste prendre ceux qui sont en gras là. Vous les avez en gras aussi dans vos. On va juste comparer ces textes là. Je les ai pas tous imprimés. Ce sera pour la prochaine fois. Ésaïe 53, 4 et Matthieu 8, 17. Celui qui lit le premier lit le deuxième en même temps.
Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé.
Ok. Et Matthieu 8, 17?
Matthieu 8, 17. En sorte que...
Verset 16.
Et le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques. Et il chassa les esprits par une parole et guérit tous ceux qui se portaient mal, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant « Lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies. »
Wow. Tu vois les deux textes, ce que Ésaïe a prophétisé que Jésus allait faire, et là en Matthieu on le voit faire exactement son ministère. Faisons la même chose avec Ésaïe 35, 5 et 6.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude.
Ok, tu peux tout de suite sauter sur Matthieu chapitre 11 et lire les versets 1 à 6. Matthieu 11, 1 à 6.
Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui je ne serai pas une occasion de chute. »
Ok. Donc là, c'est Jean qui est en prison, et il se demande, si je suis le précurseur de Christ, qu'est-ce que je fais en prison, moi? C'est une bonne question. Il est lui-même l'accomplissement d'une prophétie d'Ésaïe et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il envoie ses disciples à dire, mais es-tu vraiment celui qui doit venir? Parce que lui aussi, il espérait, comme tous ses disciples, que Jésus allait prendre le trône d'Israël et que lui serait certainement quelqu'un d'important dans ce royaume. Mais c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, puisque lui-même est arrêté. Et Jésus est en train de lui dire, écoute, dites-lui ce qui se passe, et il n'a qu'à relire Ésaïe 61. Et il comprendra qui je suis. Les aveugles les voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Ce qui a été dit sur mon ministère en Ésaïe, mais il peut le voir s'accomplir. Dites-lui ce que vous voyez et il comprendra que ces choses sont accomplies. formidable. Tout ce ministère de Jésus, tout ce qu'il allait faire était annoncé et il l'accomplit mot à mot ce qui a été dit. Et quand Jean a des doutes, il fait, mais dites-lui ce qui se passe. Et il savait que Jean connaîtrait ces textes d'Ésaïe. Il y aurait beaucoup à lire encore sur son ministère, hein, mais on va continuer. Son enseignement aussi a été prophétisé. Je vais vous lire en Matthieu 78. Deux, j'ouvre la bouche par les sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Jésus va dire des choses absolument extraordinaires. En Matthieu 13, il va parler des mystères du des mystères du royaume des cieux. Jésus va annoncer des sagesses que dans l'Ancien Testament on ne connaissait pas. Il va annoncer des choses absolument extraordinaires. Et le texte nous prévient, l'Ancien Testament nous prévient que c'est ce que le Messie va faire, et on le voit le faire. Son entrée triomphale à Jérusalem. Quelqu'un peut nous lire ce texte, Zacharie 9:9 ?
Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse.
Ok. Je pense qu'on n'a pas besoin du texte de Matthieu, je pense que vous connaissez ce texte. Est-ce qu'il s'est réalisé tel quel? Ouais, parfaitement réalisé tel quel. Annoncé par qui? Par Zacharie. Ça, c'est un prophète post-exilique qui a écrit probablement au 4e siècle avant Jésus-Christ, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il dit ce qui va se passer le jour de ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, où Jésus vient et des cris d'allégresse. Il annonce exactement ce qui va se passer. Et ça se déroule comme il le dit. Même sur le monter sur un âne. Même ça, dans le moindre détail, ce que Jésus allait faire, son entrée, était prophétisé. Son rejet par son peuple.
Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
Ouais. Est-ce que ça s'est réalisé, ça, exactement comme ça?
Oui.
Ouais. Et finalement, sa mort même a été prophétisée. Une mort atroce et violente. On ne va pas prendre le temps de lire tous ces passages, mais si vous voulez lire de la souffrance de Christ à la croix, vous pouvez lire ce psaume 22 qui raconte avec détail ce que Jésus a souffert. Et Ésaïe 53, verset 7, un verset très connu, je vais peut-être le dire moi-même, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » On peut lire tous ces passages où Jésus a été arrêté, et exactement ce qui a été prophétisé, il ne va plus rien dire, n'est-ce pas? Il va pas, à aucun moment il va se révolter contre le fait même qu'on l'arrête ou qu'on le crucifie. Il y a des psychologues qui se sont amusés à essayer de comprendre comment Jésus a réagi, le fait qu'il ne réponde pas, qu'il ne se défende pas. Ils disent n'importe qui a fait un peu de psychologie, qui étudie la réaction de Jésus autour de la croix, doit comprendre, réaliser et accepter que Jésus est Dieu. Parce qu'aucun de nous ne pourrait réagir comme Jésus a réagi. La victoire du Messie a été annoncée, même sa résurrection a été annoncée. Allons-y.
Psaume 16. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
Oui. Ce passage sera utilisé après en acte 2 par Pierre lors de la Pentecôte pour montrer que Jésus est ressuscité. Il ne permettra pas que ton bien-aimé voie la corruption. On n'a pas le temps dans les actes 2, mais Pierre, il va dire, quand David dit cela, il n'a pas pu parler de lui-même parce que David a vu la corruption. Et Pierre va même dire, son tombeau est parmi nous. Donc il parlait de Jésus, le fait qu'il ne voit pas la corruption, il est ressuscité. D'accord. Et même cette victoire a été annoncée. Et son ascension a été annoncée aussi.
Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Psaume 68, 18 et 19.
Et ce texte est rapporté en Éphésiens 4, 8 aussi. Tu es monté dans les hauteurs, qui fait référence à l'ascension de Jésus-Christ après sa mort. Donc, l'ensemble de la vie de Jésus, sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection, l'entrée triomphale, sa victoire et même son ascension ont été prophétisés dans l'Ancien Testament et se sont parfaitement accomplis, mais pas juste accomplis à la lettre. D'accord? Je vais m'arrêter là-dessus une seconde parce que pourquoi c'est important pour nous de regarder ces prophéties de Jésus? C'est important dans ce cours de Christologie parce qu'on parle du Seigneur Jésus. Donc, alors évidemment, dans d'autres cours, c'est très important parce qu'on veut confirmer que Jésus, tel qu'il nous est présenté dans le Nouveau Testament, est celui qui a été prophétisé. Hein, pour nous montrer ça, on regarde ces passages. Mais au-delà de cela, pourquoi c'est important pour nous de considérer ces choses et de nous rappeler que Jésus est la réalisation de toutes ces prophéties?
S'il a réalisé ses prophéties, c'est-à-dire que les promesses et les prophéties qui sont encore en cours vont s'accomplir.
Voilà. Si Dieu a accompli toutes les promesses concernant la première venue de Jésus dans les détails où ils sont, il va le refaire quand il viendra nous chercher.
Aussi, parce que je peux faire confiance, parce que la parole dit, donc elle est digne de confiance, donc c'est peut-être une autorité.
Mm-hmm. Exactement.
Ça montre aussi une continuité quand même, parce que s'ils étaient arrêtés là, et après moi, le début. Donc, dans le plan de Dieu, il y a quand même la volonté de ses enfants de leur laisser quelque chose, de ne pas s'arrêter à ce qui a été déjà accompli. On a pris des bouillons. On a laissé quelque chose. Ils se rapprochaient. Ils se respiraient, je crois.
Ça veut dire aussi que Jésus, sachant tout ça, hors du temps, il l'a fait.
Il savait exactement ce qu'il allait souffrir. Oui, vas-y. Une pleine assurance en sa personne et en sa parole. Hein.
Mm-hmm. Jésus qui dit aussi, personne ne me prend ma vie, je la donne.
Mm-hmm. C'est lui qui l'a donné. On n'aurait pas pu le tuer hein, s'il ne donnait pas sa vie. Hein. Il était le prince de la vie. Comment peut-on tuer le prince de la vie? Il a donné sa vie. Il y a une chose vraiment à laquelle je voudrais attirer votre attention, on en parlera dans un autre cours quand on fera l'eschatologie un jour, comme un collier déjà fait. Mais ce que nous montrent ces prophéties, comme j'ai dit tout à l'heure et je vais insister là-dessus, c'est qu'elles sont réalisées littéralement. Bethléem, c'était Bethléem Ephrata, pas un autre. L'entrée dans Jérusalem, c'était sur un anon. C'est marqué anon. Je ne peux pas dire autre chose que anon. Hein, c'est un anon sur lequel est arrivé Jésus. C'est précisé qu'il naîtrait d'une vierge. Marie n'était pas mariée. Enfin, elle était mariée, mais elle ne vivait pas encore ensemble avec Joseph. Et sa crucifixion, les souffrances à la croix étaient prophétisées et elles se sont passées. Même ce qu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, a été prophétisé. Je vous rendrai attentif à cela parce que ça veut dire que ce qu'il dit sur son deuxième, sur son retour, sur sa deuxième venue, va s'accomplir littéralement également. Il n'y a aucune raison, et je dis ça parce que c'est fait très souvent, on torture le texte maintenant pour lui faire dire quelque chose qu'il ne dit pas. La Bible promet qu'un jour, il y aura un roi qui va régner sur la terre avec le loup et l'agneau. Et c'est marqué loup et agneau. Donc on s'attend à ce que ça soit un jour le cas, aussi littéralement qu'il est né d'une vierge. Ça semble impossible. La Bible dit que Jésus va revenir et que nous serons changés en un clin d'œil. C'est quelque chose qui nous semble impossible à imaginer. Mais est-ce que les Juifs avaient pu imaginer qu'une vierge viendrait enceinte? Ils avaient du mal à le croire. C'était impossible. On a du mal à imaginer que quelqu'un qui était dans le tombeau pendant 3 jours en sorte vivant avec un corps glorieux. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, mais c'est quelque chose que la parole avait prophétisé et qui s'est réalisé tel que la parole l'avait dit. Donc je suis confiant que tout ce que Jésus a promis, et tout ce que Dieu a promis dans cet testament, tant pour le peuple d'Israël que pour les nations, va s'accomplir tel qu'il l'a dit. Même si ça semble impossible à mes yeux. J'imagine assez mal voler. Mais Jésus dit qu'on va le rencontrer dans les airs. Et on sera changé en l'espace d'un clignement d'œil, je crois qu'il dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Comme lui quand il est monté au ciel. Ouais. Il n'avait pas d'aile. Mais il est parti dans une nuée, n'est-ce pas? En fait, je veux juste insister là-dessus. Donc, quand vous lisez la Bible, faites un effort pour la comprendre. Et une lecture littérale de la Bible, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des genres bibliques. On ne va pas lire un psaume comme on lit une lettre de Paul. D'accord? On ne va pas lire les histoires de Genèse, qui sont des narratifs, comme on lit des prophéties d'Ésaïe. On est bien d'accord. Dieu, dans sa grâce et dans la variété de son expression, a utilisé tout plein de genres littéraires différents pour s'adresser à nous. Donc, nous devons prendre ces choses-là en considération. Mais une lecture littérale, ça veut dire que nous croyons que ce que dit la Bible est vrai et qu'elle est compréhensible. Je répète encore une fois, j'ai déjà dit ce matin, mais Dieu ne se cache pas dans sa parole. Dieu se révèle. Et à nous qui avons reçu le Saint-Esprit, il a enlevé le voile devant nos yeux pour que nous puissions comprendre. Parce que l'auteur des paroles, de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et par sa grâce, Dieu habite en nous. L'auteur des Écritures habite en nous. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on doit mettre notre intelligence en veille. C'est juste le contraire que ça veut dire. Ça veut dire que nous cherchons à grandir dans la parole et à continuer de comprendre ce que Dieu a dit. Ça va? Ah oui, hein. Quoi? Non.
Si on prend littéralement les prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent Jésus, comme les Juifs, on pourrait voir un guerrier militaire, roi. Mais du coup, est-ce que penser que nous, quand on lit des prophéties sur le royaume à venir, bah, il faut les prendre littéralement. En fait, est-ce qu'on peut ne pas faire comme les Juifs et se dire, bah, en fait, ça va être comme ça, alors que, bah, on a une conception qui n'est pas du tout celle que Dieu a.
je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais vas-y, laisse juste s'exprimer jusqu'au bout là. Ouais.
Les Juifs, ils avaient une vision du Messie comme un guerrier militaire qui allait venir
et écraser les Romains
sur terre.
Mm-hmm. Et il va venir comme ça.
Oui,
mais il va revenir comme un roi militaire.
Bien différente que la conception que les Juifs en avaient.
Alors qu'ils connaissaient hyper bien les Écritures.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
On raisonne de la même manière en disant, ben, on va prendre les Écritures et on va se faire une conception de comment ça va être. Est-ce qu'on risque pas de faire comme les Juifs et de se créer une conception de la venue de Jésus?
Bien sûr, on pourrait très bien, on pourrait imaginer qu'on se trompe, n'est-ce pas? Mais l'interprétation de la parole de Dieu ne se fait pas, c'est pas un être isolé. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure le concile. C'est des hommes qui se sont mis ensemble. Il y aura toujours des différences. Mais ce que j'essaie d'expliquer ce matin, c'est simplement c'est l'herméneutique, la façon dont on va lire les Écritures. Et lorsqu'on voit comment les apôtres ont lu l'Écriture et comment ils l'ont appliqué à Jésus, ils l'ont appliqué de façon littérale. Et ce que nous avons que eux n'avaient pas, c'est que nous regardons en arrière sur Jésus et nous remarquons tout ce qu'il a déjà fait. Les Juifs de l'Ancien Testament, ils regardaient en avant. N'est-ce pas? Et c'est pas sûr que tous se soient trompés sur qui était Jésus. Hein. Ceux qui l'ont suivi, ils n'ont pas tout compris, mais ils lui ont fait confiance quand même. Même ses apôtres. Tu vois. Ils avaient une espérance qu'il n'a pas tout à fait accomplie pour eux, mais ils vont comprendre plus tard. Lorsque le Saint-Esprit va venir, et même quand tu vois en Luc 22, je crois, quand Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, il leur explique comment toute la parole de Dieu parle de lui. Donc nous avons un grand avantage sur eux. grand aventureux parce que faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, nous regardons en arrière sur ce qu'il a déjà fait. Donc, nous pouvons voir que les prophéties sont effectivement accomplies littéralement. Nous avons cette grande différence aussi, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein, nous sommes dans une situation vraiment très différente dans l'histoire de l'humanité. Hein, parce que l'événement principal de l'humanité, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sont derrière nous. Alors que pour eux, c'était devant eux. C'est pas pour les excuser, mais pour expliquer un tout petit peu leur conception. Et aujourd'hui encore, hein, et Paul le dit, pour les Juifs, ils ont toujours un voile sur les yeux. Quand tu vas en Israël, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'ai parlé avec pas mal de gens qui y sont allés, ils ont toujours cette fausse idée de Jésus. Ils continuent de cultiver cette fausse idée. Et ce qu'ils font, qui est très intéressant, ça c'est juste en passant comme ça, c'est que les Juifs, les orthodoxes, ceux qui sont les plus conservateurs, ils ne lisent pas les prophètes. Et Ésaïe 53 est le chapitre interdit. Ils lisent Moïse. Ils lisent la Torah, ça c'est vraiment pour eux les 5 livres les plus importants, et tous les commentaires, les dizaines de milliers de millions de pages qui ont été écrits là-dessus. Donc, on n'est pas dans la même situation qu'eux, pas du tout. Hein, parce que nous avons le Seigneur, nous sommes régénérés, nous sommes scellés du Saint-Esprit, temple du Saint-Esprit, Jésus est avec nous. Nous avons un éclairage qui est tellement différent que le leur. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous parlons aux Juifs aussi, ouais. Ce que juste terminer ici, de répéter ce que j'ai dit, c'est que ce qui pour moi est primordial, c'est comment nous allons lire la Bible. Et je pense que ces prophéties nous montrent que nous pouvons lui faire confiance et que elle s'accomplit telle que Dieu l'a dit. Et si c'est vrai pour la première fois, c'est vrai pour la deuxième fois. Et ce qui est formidable, c'est que notre Dieu est fidèle et qu'il ne change pas. Ses promesses sont faites une fois pour toutes. En lui, c'est oui, amen, n'est-ce pas? Tu veux encore dire quelque chose? Ah, je pensais que tu essayais de me dire quelque chose.
Non, mais c'est pas un passage intéressant dans Ésaïe 42.
Oui.
À quel point on peut prendre toutes les prophéties de façon littérale?
C'est le contexte qui va le déterminer, en fait. C'est le contexte qui va le déterminer. D'où l'importance de l'exégèse, tu vois. Qui a écrit, quand il a écrit, à qui il a écrit, dans quel genre littéraire il a écrit. J'espère qu'on aura ce cours ici un jour. Est-ce qu'il y a un cours d'herméneutique à Théopole ou pas?
Oui, on en a eu, mais ça fait longtemps.
Ah, ouais, d'accord. Je pense que c'était M. Heiermans qui a dû le faire.
Qui ça?
M. Heiermans. J'espère que c'était lui.
Qui ça?
Timothy. Heiermans. Tim Heiermans.
C'est possible. Ouais. On l'a déjà eu.
Et en fait, pour toutes ces questions-là, parce que j'ai pas le temps de traiter tout ça maintenant, hein, mais je vous invite à venir à la l'Institut biblique. On passe 16 heures. Sur l'herméneutique, on discute de ces choses-là et de l'importance de comment on lit la Bible. Parce que c'est comment on lit la Bible qui va définir ce que nous en comprenons. Et donc à Algrange, nous sommes des fervents défenseurs d'une interprétation historico-grammaticale et contextuelle. C'est-à-dire que nous croyons que Dieu a utilisé des mots qui ont un sens avec une grammaire, une histoire, un contexte et des personnes qui l'ont dite. Par opposition à une herméneutique allégorique, où derrière les mots, on va essayer de trouver un sens caché. Et c'est vrai qu'il y a plein d'allégories dans la parole, mais on le sait. Hein, Jésus dit, quand il leur dit une parabole, on sait que c'est une allégorie. On n'a aucun doute. C'était pour révéler à certains et cacher à d'autres. Donc, mais la Bible est remplie, ça fait partie de la littérature biblique d'avoir des allégories, mais on le sait. Et plus on l'étudie, plus on comprend, on fait de la différence entre ce qui est allégorique et ce qui n'est pas. C'est beaucoup de travail, mais c'est faisable. En fait, le souci que nous rencontrons, c'est que si on allégorise tout, plus rien ne veut rien dire. Les choses ne veulent plus rien dire du tout. C'est ça la grosse difficulté.
Allez. Oui. Est-ce que Daniel, l'histoire des chiffres,
sa prophétie? Non, tu vas mettre pas sur Daniel là parce que il est midi moins 20 et. Oui, mais enfin.
C'est un autre sujet.
Non, mais Daniel est juste passionnant parce que, juste une petite chose, parce que Daniel nous donne quand même des indications de temps. Par exemple, il parle de 70 semaines, ce qui se passe au milieu d'une dernière semaine. Et on comprend lorsqu'on lit son livre qu'une semaine c'est 7 ans et que 70 semaines c'est 7 fois 7 ans, enfin, 7 fois 70 ans. Voilà, il y a tout plein de choses qui semblent difficiles à comprendre, mais lorsqu'on les étudie un peu plus et qu'on compare avec ce qui est déjà passé, on comprend qu'il a quelque chose de précis en tête. Mais là, non. On va continuer parce que je voudrais quand même. Ouh là là. Oui. La date est déjà prévue pour le suivant. On va commencer quand même à parler de la divinité de Jésus, même si notre temps est court et que ça prendrait beaucoup de temps. Mais lorsqu'on a parlé de la préexistence de Jésus, nous avons déjà nécessairement fait référence à sa divinité. D'accord? Et, donc, on va parler un tout petit peu de sa divinité et plusieurs des choses qu'on va voir là, on les a déjà abordées un petit peu plus tôt. Donc, je pense qu'on peut avancer un tout petit peu plus vite, parce que certains passages, on les a déjà vus. Donc, les noms et titres donnés à Christ n'appartiennent qu'à Dieu. Donc, ça prouve sa divinité. Si on donne un titre à Christ, qui est un titre divin, c'est que Christ est Dieu. D'accord avec cet argumentaire? Alors, Christ est appelé Dieu. On a tout plein de passages, là. On va les lire. Je ne sais plus à qui c'est.
C'est moi. Jean 1-1. Ouais. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Ok, c'est clair comme limpide comme l'eau claire.
Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu.
À qui il parle?
À Jésus.
Jésus parle à, Thomas parle à Jésus, et il dit quoi?
Mon Seigneur et mon Dieu.
Waouh! Vous voulez une preuve plus grande de sa divinité? Extraordinaire, hein? Mon Seigneur et mon Dieu, dit-il à Jésus. Acte 20, 28.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, Théos, qu'il s'est acquise par son propre sang.
Ok, le mot Seigneur, c'est Théos qui est Dieu. Hein? Pour l'église, il vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, de Dieu. Hein? Donc, faisant référence à Jésus, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc c'est bien l'église de Jésus-Christ, et l'église de Jésus-Christ est appelée ici l'église de Dieu. Ce qui fait de Jésus Dieu. 9-5.
Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen.
Alors ça c'est une imposition là. Qui est ce Dieu béni éternellement? Jésus. Clairement, là, l'apôtre Paul, dans Romains. Hébreux 1:8.
Mais il l'a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.
Ok, il parle au Fils et il dit, ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. On l'a déjà vu tout à l'heure, ce passage-là. 1 Jean 5, 21.
C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Ok, j'ai pas le temps de revenir sur 1 Jean 5, mais de qui parle-t-il quand il dit « c'est lui qui est le Dieu véritable » Jésus. Il parle de Jésus comme le Dieu véritable. On est d'accord? Mais je pense que vous êtes déjà convaincus de ça. Mon objectif, c'est juste de vous montrer les passages où c'est marqué. Je pense que tout le monde ici doit être convaincu que Jésus est Dieu. C'est le cas? Personne n'est pas convaincu? Quelqu'un n'est pas convaincu encore? Mais je veux que vous sachiez où ça se trouve. D'accord? Parce que c'est une chose de croire une vérité biblique, c'est une autre chose de pouvoir dire que la Bible en parle ici et là. Et c'est ça qui est le plus puissant de tout. Hein, parce que ce qui change les gens, ce qui nous régénère, ce qui nous convainc, c'est la parole de Dieu. Et je veux juste vous dire ça parce que lorsque vous donnez votre témoignage à quelqu'un et que vous lui parlez de ce que le Seigneur a fait pour vous, c'est une chose. Ce qui est encore mieux, c'est de s'asseoir avec eux et dire « Tu voudrais bien lire l'évangile de Jean avec moi ?» Et de leur montrer ce que l'évangile de Jean, je prends l'évangile de Jean, ça pourrait être autre chose, dit de Dieu. Ça, c'est tellement, tellement puissant, parce que la parole de Dieu est puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Elle va là où nous ne pouvons pas aller. Hein. Elle va dans les profondeurs où nous ne pouvons pas aller. Nous ne comprenons pas toujours comment elle agit, mais elle agit à un niveau que nous ne pouvons pas atteindre et que nos mots ne peuvent pas atteindre. Hein. C'est pour ça que chez nous, dans l'Église, lorsque les gens donnent leur témoignage pour le baptême, j'insiste toujours, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement toi. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ça, que Jésus soit exalté, hein, parce que c'est de lui qu'il est question, c'est lui le sauveur. C'est de lui qu'on parle. C'est pour ça que je dis aussi, tu me mets un ou deux bons versets bibliques que le Seigneur a utilisé particulièrement dans ta vie et tu les partages avec nous. Il s'agit du Seigneur Jésus, pas tellement de moi, mais de lui et de ce qu'il a fait pour moi. Fils est appelé le Fils de Dieu, qui est un titre divin aussi. Je sais plus. Bon. Vas-y.
À l'époque de Christ, le sens de cette expression, c'est égal, l'égal de Dieu. Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, en se faisant lui-même égal à Dieu.
Wow. Hein, pour les Juifs, lorsque Jésus parle de Dieu comme son Père, qu'il se prend pour le Fils de Dieu, pour eux, il n'y a aucun doute. Tu ne peux pas dire que tu es le Fils de Dieu, la façon dont tu en parlais, sans dire que tu es Dieu lui-même. Alors ça, évidemment, qu'est-ce que ça va lui causer? Ils vont vouloir le lapider pour ça, de se faire Dieu. Jean 10, 33 à 36.
Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui est un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu.
Ok, là, clairement, Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu. Il y a des passages dans l'Ancien Testament où des juges et des gouvernants étaient appelés des fils de Dieu, parce qu'ils avaient ce rôle d'être des juges et des dirigeants, hein. Et Jésus leur dit, mais vous dites que moi je blasphème alors que je suis véritablement le Fils de Dieu. Quelqu'un peut dire ma petite conclusion là?
Selon l'image orientale, le mot fils, huos, n'indique pas l'origine mais la position ou la relation. C'est le mot enfant, kénon, qui indique l'origine. Christ n'est jamais appelé l'enfant de Dieu. Ainsi, fils de l'homme, trouvé plus de 80 fois dans les évangiles, n'implique pas son origine, car celle-ci ne dérive pas de l'homme. Ce titre souligne la vraie humanité de Christ, mais peut aussi faire écho à sa divinité.
Je suis content que tu dises ça, parce que c'est depuis tout à l'heure qu'on parlait de ça avec toi, et c'est le même texte, Daniel 7, 13 à 14. C'est une belle providence, n'est-ce pas? Donc, Jésus n'est pas appelé l'enfant de Dieu, mais il est appelé le Fils de Dieu pour faire référence à sa relation avec Dieu. Tantôt, quelqu'un me parlait de la soumission de Jésus, c'était toi tout à l'heure. Jésus est soumis en tant que Fils de Dieu, est soumis à son Père. Et pour ceux qui restent pour les couples tout à l'heure, je ne sais pas si on a, mais on parle de soumission. La soumission dans la Bible n'est jamais synonyme d'infériorité. Jamais. Jésus a une fonction différente du Père. Et c'est pas sa soumission qui le rend moins Dieu. J'espère que vous en êtes convaincus dans tout ce qu'on a vu ce matin. Il était pleinement Dieu même quand il était sur la terre. Il était avant, il était pendant, il est après. Il reste Dieu. Sa soumission ne le rend pas moins Dieu, ne le rend pas moins inférieur. Il a une fonction différente. Et sa soumission est une gloire. Mesdames, ça c'est un peu pour vous là. Parce que lorsque le texte dit en Éphésiens 5, soumettez-vous à vos maris, d'ailleurs le mot, enfin c'est une autre question, mais c'est passif, c'est on se soumet soi-même pour être l'épouse de son mari, comme Christ est soumis au Père, et comme l'Église se soumet au Christ. Jésus s'est soumis volontairement à son Père, et c'était sa gloire, parce qu'il est son Fils. Tout est appelé le Seigneur.
Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. Quand on appelle Christ le seigneur...
Attends, juste, qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit quoi de lui-même? Vous m'appelez maître et seigneur. Et seigneur. Ouais, okay. Et vous dites bien, car Jésus le dit lui-même. Hein. Je le suis. Je suis le Seigneur. Et c'est toujours émis. Hein. C'est toujours émis. Ouais. C'est juste une conjugaison du verbe être. Hein. Donc ouais. Mais là, il ne dit pas forcément de lui-même. Je suis dans le même sens qu'il aurait dit avant qu'Abraham je suis. Il dit je suis le Seigneur, celui que vous dites que je suis. D'accord. Juste une petite note, que fait le Seigneur là? Ouais. Vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. C'est juste une petite parenthèse là. On parle du Fils de Dieu qui lave les pieds de ses disciples pour que nous fassions la même chose les uns aux autres. Alors, quand on appelle Christ le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait?
On confesse la divinité de Christ, on confesse ses droits absolus sur notre vie, sur l'Église et l'univers, on affirme le devoir de lui rendre compte pour notre vie, on fait une déclaration publique de foi en lui et l'on rejette toute autre autorité. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souveraineté élevée et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Ok. Je m'arrêtais un tout petit peu quand même sur qu'est-ce que ça veut dire quand je m'appelle Christ Seigneur. Parce que nous utilisons ce mot assez légèrement, couramment, et même dans certaines prières, je sais pas si vous avez entendu des gens qui disent Seigneur, 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 tous les deux mots là. Qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, hein, parce que je fais ça avec personne. Florence, tu pourrais m'apporter Florence, s'il te plaît, aussi un morceau de gâteau, Florence, s'il te plaît, c'était très bon aujourd'hui. Florence, ça ferait bizarre si je disais ça, n'est-ce pas? Je dis Florence, parce que Florence est mon amie depuis 30 ans. Hein. Mais lorsqu'on appelle Christ le Seigneur, on fait d'abord ce qu'on marque ici, on confesse la divinité de Christ. Lorsque quelqu'un dit que Jésus est Seigneur, il dit que Jésus est Dieu, ni plus ni moins. La deuxième chose, si on confesse que Christ est Seigneur, on confesse ses droits absolus sur notre vie, sur l'Église et l'univers. S'il est vraiment le Seigneur, s'il est vraiment le Dieu, alors il a tous les droits sur ma vie. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que je renonce à mes propres droits et les lui abandonne. C'est-à-dire que je reconnais aussi qu'il est souverain sur ma vie. Et qu'il permet des fois des choses très difficiles. Des choses désagréables, mais il reste souverain. Et s'il est mon Seigneur, ça veut dire que, voilà Seigneur, je suis à toi. Fais avec ma vie ce que bon te semble, mais je te fais confiance. Et avec les années qui passent, il y a quelque chose qui m'arrive en ce moment, c'est que je me rends compte que ça vaut vraiment la peine. Le temps passe très 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 vite. Quand je viens de dire 30 ans là, Florence, ça m'a donné un coup là, moi-même de m'en rendre compte là, mais... Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et ça semblait hier qu'elle arrive débarquer à l'Institut, elle m'a présenté ma femme, c'est sympa. Hein. En fait, lorsqu'on dit que Jésus est Christ et Seigneur, c'est ça que ça veut dire pour nous. Il a le droit absolu sur notre vie. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur qui a les droits absolus sur notre vie, c'est un Seigneur qui nous aime. N'est-ce pas? C'est un Seigneur qui veut le meilleur pour nous. Un Seigneur qui est avec nous tous les jours de notre vie. Un Seigneur qui nous pardonne encore et toujours lorsque nous confessons nos péchés parce qu'il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est le Seigneur à qui nous avons donné les droits de notre vie. C'est pas un despote méchant. C'est celui qui veut que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est formidable de donner les droits de sa vie à ce Seigneur-là. Troisième chose, on confirme le devoir de lui rendre compte pour notre vie. S'il est mon Seigneur, je dois aussi lui rendre compte de ce que je fais. Comme tout bon serviteur à son maître, n'est-ce pas? Le maître nous confie une œuvre, le Seigneur nous confie une œuvre et à tous, pas seulement aux pasteurs et aux prédicateurs, le Seigneur nous confie une œuvre très précieuse, une œuvre glorieuse, celle d'annoncer son nom à toutes les nations et de vivre pour lui. Et parce que nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, nous reconnaissons aussi que le jour arrive où au tribunal de Christ nous rendrons des comptes de ce que nous avons fait de notre vie. Parce qu'il est Seigneur, nous lui devons des comptes. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Tous les dons que nous exerçons, c'est lui qui nous les a donnés. Tout ce que nous avons vient de lui. Qu'est-ce que nous en faisons? Quand nous disons Jésus-Christ est Seigneur, on est en train de dire aux autres, je vais lui rendre compte un jour à lui. Je sais pas pour vous, moi ça me fait trembler un peu cette pensée. Et je prie des fois, je dis Seigneur, j'espère que lorsque le moment arrivera, que tout sera passé par le feu, nos œuvres seront passées, qu'il reste un petit peu quelque chose. Parce que des fois je sonde mes motivations et les pensées de mon cœur et j'y vois beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance. Je dis, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment pour plaire à ton Seigneur ou pour toi-même? On vit dans une société, on l'a dit tout à l'heure, où le standard ou le désir, c'est de se consacrer à soi-même. Nous, lorsque nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur, nous déclarons que nous nous consacrons à lui. Et c'est à lui qu'il va falloir rendre des comptes, mais tous, pas seulement nous. Tout genou fléchira. C'est le texte que l'intercesseur nous a lu tout à l'heure. Tout genou fléchira, dans les cieux et sur la terre. Personne ne résistera. Tout le monde résistera. Mais moi, je vais être de ceux qui fléchissent le genou volontairement, en le reconnaissant pour qui il est. Et en fait, la dernière chose, c'est que lorsqu'on déclare que Jésus est Seigneur, on fait une déclaration publique de foi en lui, et donc on rejette aussi toute autre autorité sur notre vie. On fait, lorsqu'on déclare que Jésus est Seigneur, on déclare en même temps qu'il n'y a pas d'autre Dieu, que notre Dieu est le seul Dieu, et que lui seul mérite qu'on le serve de tout notre cœur. Donc faisons attention lorsque nous prononçons ces mots « Jésus-Christ est Seigneur », ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce Seigneur veut être notre Seigneur, et ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a une image que j'aime bien donner dans mes messages lorsque je parle du Seigneur Jésus, c'est que je trouve que c'est formidable qu'on le connaisse. Formidable de connaître le Seigneur Jésus, vous ne trouvez pas? Extraordinaire. Tout le monde est d'accord. Vous savez ce qui est encore mieux? C'est qu'ils me connaissent, moi. La dernière fois que j'ai prêché ici, je crois que j'ai pris l'exemple de notre grand-duc. Moi, je vis dans une monarchie constitutionnelle où le chef de l'État s'appelle un grand-duc. On vient de changer, il s'appelle grand-duc Guillaume. Tout le monde à Luxembourg connaît le grand-duc. Tout le monde. C'est un peu comme la famille royale, si vous voulez, en Angleterre, ou la famille Macron en France. Voilà, et tout le monde espère, moi, j'espère que j'ai rencontré le grand-duc dans la rue. Parce que c'est des gens relativement normaux, très riches, parmi les plus riches du monde, probablement. Mais ils sont normaux. Et tout le monde les connaît. Mais lui, il connaît qui? Il ne connaît pas moi. Moi, je ne pense pas. Je me dis peut-être qu'il a regardé un de mes messages sur YouTube, peut-être. Peut-être. Mais il ne me connaît pas. Il ne sait pas qui je suis. Je ne suis pas particulièrement intéressant pour lui. Mais le Seigneur des Seigneurs, le Dieu éternel, il sait qui est Joël Meyer. Et il m'aime malgré tout. Il connaît mes froideurs, il connaît mes tièdeurs, il connaît mes chutes. Rien n'est caché devant lui. Il connaît l'hypocrisie, la fausseté, la duplicité. Il connaît tout cela et pourtant il m'aime et il me connaît. Et ça, je trouve, c'est la plus merveilleuse des nouvelles. Ce Jésus dont nous parlons depuis ce matin, hein, qui est préexistant, qui est le Dieu qui se fait homme, il nous connaît chacun. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Et lorsque nous disons qu'il est Seigneur, nous reconnaissons qu'il est juste ça, qu'il est Dieu. Je vais juste terminer ma petite page 13. Je suis bonne page, la 13. Christ est appelé le Seigneur de gloire. On a juste 2 minutes, alors on va faire je vais peut-être les lire là. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Le psaume 24 dans l'Ancien Testament et dans 1 Corinthiens 2, 8, lorsque Paul parle de Jésus, il dit « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Quel titre formidable, divin, il est appelé ici, le Seigneur de gloire, c'est le titre que possède Jésus. Christ est aussi appelé le Saint et le Juste. En Actes 3, 14, Pierre qui parle aux Juifs leur dit « Vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » Et en Osée 11, 9, on lit de l'Éternel qui parle « Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. » Et on a Ésaïe 48, 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. » Christ reçoit ce même titre que Dieu. Il est appelé le Saint et le Juste. Et finalement, Christ est appelé le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, alpha étant le premier, la première lettre de l'alphabet grec et oméga, la dernière. Donc le début et la fin, alpha et oméga. En Ésaïe 44, 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. » L'Éternel qui parle, en se donnant ce titre, premier, dernier, Apocalypse 22, 13, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » J'espère que vous êtes convaincus que Jésus est véritablement Dieu. Il porte les noms qui sont attribués à Dieu. Il se les approprie à lui-même, qui le rend Dieu. Ce qui montre qu'il est Dieu, ça le rend pas Dieu, qui montre qu'il est Dieu. Ces noms et titres furent appliqués à Christ par des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament et qui connaissaient très bien le sens des mots. D'ailleurs, ils étaient des monothéistes convaincus. L'affirmation centrale de leur religion était « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel ». Ils croyaient qu'entre Dieu et les hommes, il y avait un abîme infranchissable. De plus, Christ lui-même était juif et croyait en un seul Dieu. Il connaissait mieux que quiconque le sens profond des expressions que nous avons examinées. Non seulement il a permis aux hommes d'utiliser ces termes en s'adressant à lui, mais il a encouragé cette pratique. C'est volontairement et consciemment que ces titres et noms sont appliqués à Christ afin de nous transmettre une vérité capitale. Jésus-Christ est de nature divine. Et je voudrais terminer avec ça ce matin, parce que je crois qu'on est juste à l'heure, n'est-ce pas? Laissez-moi prier pour terminer. Seigneur Jésus, comment ne pas nous courber devant toi après tous ces textes que nous avons partagés ce matin? De nous réjouir que toi qui existais avant les temps éternels, tu es venu comme un homme. De nous rappeler ce matin que tu es véritablement notre Dieu, le Créateur de toutes choses, que tu es le Seigneur de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Saint, le Juste, l'Éternel, le Dieu puissant. Nous te remercions parce que tu t'es révélé à nous. Nous te remercions parce que tu es notre Seigneur. Parce que nous te connaissons, ce qui est formidable, et parce que tu nous connais aussi. Non, merci pour ta grâce envers chacun d'entre nous. Merci pour ces quelques heures bénies passées ensemble. Nous te confions le reste de cette journée et ce week-end et aussi les semaines qui viennent. Seigneur, aide-nous à nous rappeler de qui tu es pour que nous te servions de tout notre cœur. Et nous t'en prions, Jésus-Christ. Amen.